Ce matin, nous commençons la deuxième partie de notre étude des deux personnes qui font le mariage, c'est-à-dire le mari et la femme, l'époux et l'épouse. Nous avons déjà vu en deux études le mari et ce matin, je commence une étude sur la femme ou l'épouse. Et je voudrais vous donner un petit résumé en quatre points pour vous aider à comprendre la situation générale de la femme aujourd'hui par rapport à l'histoire. Nous allons très brièvement considérer la femme à la création, deuxièmement après la chute dans le jardin d'Éden, troisièmement sous la loi de Moïse et quatrièmement sous la nouvelle alliance. Dieu dit en Genèse 2, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Premièrement donc, à la création, la femme n'était pas inférieure à l'homme. Elle, comme lui, a été créée à l'image de Dieu. C'est en Genèse 1, les versets 26 à 28 que nous trouvons cela. À tous les deux, Dieu a offert un environnement parfait où ils pouvaient avoir une vie pleine et heureuse. Et Dieu leur a donné une communion complète avec lui-même. La femme était le point culminant de la création de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 11, le verset 7. Deuxièmement, après la chute, la femme a perdu sa position de gloire aussi bien que l'homme. Dieu lui dit, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Chapitre 3, le verset 16 de Genèse. Lorsque les humains sont devenus de plus en plus iniques pendant des siècles, le péché spécifique mentionné par rapport à cette méchanceté générale était la corruption du mariage. On trouve cela en Genèse, le chapitre 6, les versets 1 à 4. Et ainsi, pendant que l'humanité se perdait dans les ténèbres du paganisme, le rôle unique consacré à la femme par Dieu a disparu dans les concepts immoraux de la pensée païenne qui regardait la femme comme une possession donne à n'importe quel désir impie de l'homme. Troisièmement, bien que sous la loi de Moïse, les femmes israélites jouissaient d'un statut plus élevé que celui des femmes païennes, le mariage n'était pas encore tel que Dieu l'avait institué au commencement. On trouve cela en Matthieu 19, les versets 8 et 9. Et ce retard était le résultat en partie des influences païennes sur le peuple hébreu. Mais dans la quatrième époque, quand Jésus a accompli la loi de Moïse en s'offrant lui-même sur la croix, il a en même temps établi une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Jésus fait comprendre que la femme devrait occuper le même rôle que Dieu lui a donné à la création. C'est encore Jésus qui le dit en Matthieu 19, les versets 7 à 9. Pourtant, bien que sa position soit changée par l'influence du christianisme, et il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui ont retrouvé leur rôle original, bien que cela arrive, les vieilles idées païennes subsistent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, les femmes en général n'ont pas toujours le rôle ordonné par Dieu. Le problème actuel est souvent le contraire de l'histoire. Au lieu d'être des objets, des possessions, il y a des femmes qui veulent supplanter les hommes pour devenir les chefs de leur mari, comme a fait Jézabel à son mari Achab, qui était roi d'Israël. Et comme avec Israël, ces influences touchent les chrétiennes aujourd'hui. Comme un auteur a dit, les sollicitations d'un certain féminisme incite la femme chrétienne à revendiquer ses droits, à refuser la soumission au mari, à sortir de son rôle d'aide pour tenir celui de partenaire, à vouloir occuper le premier plan en conformité avec une soi-disant dignité retrouvée à rechercher une grandeur qu'elle avait trop longtemps et trop souvent laissée à l'homme. Pourtant, selon Jésus, la grandeur de la femme se trouve dans l'accomplissement de son rôle ordonné par Dieu. Cette grandeur est exposée clairement en Éphésiens 5, les versets 22 à 33, où le mariage est comparé au rapport soutenu entre Jésus et l'Église. En Éphésiens 5, avant d'entrer dans une discussion de ce lien entre le Christ et l'Église, Paul nous donne un principe pour garder l'unité dans la foi. Éphésiens 5, le verset 21, le verset que nous avons déjà vu, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Cependant, le principe de la soumission mutuelle ne détruit pas le principe complémentaire de l'autorité, sans laquelle il n'y aura pas d'ordre. Dieu nous révèle l'ordre de l'autorité dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 13, et aussi en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Il y a Dieu, Jésus, l'homme, la femme. Et dans ce schéma que Paul nous donne en 1 Corinthiens 11, le verset 3, Jésus est soumis à Dieu, l'homme est soumis à Jésus et la femme est soumise à l'homme. Mais attention, la soumission ne veut pas dire inégalité ou infériorité. Jésus est égal avec Dieu. Il est divinité mais soumis au Père. Jean 5, le verset 30, par exemple. Il n'y a pas de honte ou de déshonneur d'être sous une autorité si Jésus, Dieu fait chair, est soumis à l'autorité. La position dans l'ordre de l'autorité de Dieu n'a rien à faire avec la valeur individuelle devant Dieu. En Éphésiens chapitre 5, les versets 22 jusqu'au chapitre 6, le verset 9, Paul devient plus spécifique. Il parle des liens domestiques, le mariage, la famille, même des esclaves. L'épouse est soumise à l'époux, mais elle peut aller directement à Dieu pour satisfaire ses besoins spirituels aussi facilement que l'homme. Dieu ne fait pas exception de personne. Galates 3, le verset 28. Il exauce une femme pieuse aussi rapidement qu'un homme pieux. Ce qui est important est la piété, pas le sexe de la personne. Qu'est-ce que Paul dit aux femmes? Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune, à son mari. L'opinion de Jésus au sujet de la femme n'est certainement pas l'idée de dégradation ou de servitude. Mais encore, en comparant le mariage à l'Église, Jésus révèle la grandeur des deux institutions. La soumission de la femme à son mari n'est pas plus dégradante que la soumission de l'Église au Christ. La vraie grandeur se trouve dans une soumission volontaire. Et c'est un principe que Jésus a enseigné à ses disciples, c'est-à-dire d'être prêt à servir les autres. Luc 22, les versets 24 à 28. Un principe pour toute la famille est « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Verset 21, le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Selon Paul, la famille chrétienne s'édifie sur la juste soumission de ses membres. Mais cette soumission est faite dans la crainte de Dieu. Cela donne une consécration toute nouvelle à la vie entière. Cela rend légère cette soumission qui est normalement si difficile. Pour la femme, cela réconcilie la soumission avec sa dignité. Cela fournit un fondement et un support à l'ordre juste, même dans le cas où l'insuffisance de l'un des époux peut constituer un danger pour cet ordre. L'union conjugale doit reproduire les rapports existants entre le Christ et son Église. De même que Christ est la tête ou le chef de son Église, de même doit-il en être de l'homme pour la femme. La position du mari comme chef doit être entièrement orientée vers le salut de sa femme, tout comme il en est de Jésus à l'égard de l'Église. Paul confère à l'homme le rôle de référence et de conducteur dans l'union conjugale, alors qu'il voit la femme soumise. En se soumettant à son mari, la femme se soumet en réalité au Christ. Dans un livre qui a pour titre « Égalité ou complémentarité », l'auteur, qui est une femme, traite ce problème actuel dans le mariage où la femme exige d'être l'égale de son mari dans ce domaine de l'autorité, et donc elle abandonne le rôle que Dieu a institué. Il y a quatre thèmes qui reviennent dans le livre. Premièrement, toute chose et toute personne ont leur place dans la création. Le don spécial et la capacité de chaque créature précisent ses limitations spéciales. Comme l'oiseau accepte la nécessité de supporter les ailes lorsqu'il comprend que ce sont les ailes qui supportent l'oiseau, et ainsi la femme qui accepte les limitations du rôle qui lui est assigné trouve dans ces mêmes limitations ses dons, ou ses ailes, si vous voulez, qui l'élèvent jusqu'à la liberté, jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans le dessein de Dieu pour la création, c'est sa volonté qu'elle soit soumise, car en se soumettant, la femme trouve sa liberté parfaite, parce que la liberté veut dire accomplir le rôle pour lequel nous sommes faits. Deuxièmement, le livre montre que la hiérarchie est nécessaire pour avoir de l'ordre. Une société ne peut pas subsister s'il n'y a que l'anarchie. Et c'est la même chose dans la famille. La hiérarchie ne doit pas abuser, bien sûr. Dans le mariage institué par Dieu, Dieu donne l'autorité au mari. Et je dis quelle responsabilité que nous avons vu dans les deux dernières études. La soumission de l'épouse à cette autorité amène la vraie liberté parce que c'est vraiment la soumission à Dieu. Comme dans la société en général, la vraie liberté ne peut pas exister sans soumission à l'autorité de Dieu. Ainsi, dans le mariage, la liberté est impossible pour la femme sans soumission à son mari. Aucune femme n'est vraiment libre en essayant de supplanter un homme. Troisièmement, la hiérarchie est essentielle parce que l'égalité dans le mariage est impossible. Les différences complémentaires sont ce que Dieu a créé. Deux personnes essayant de conduire la même voiture sont destinées à avoir un accident. Mais l'un comme conducteur et l'autre comme navigateur, comme dans un avion, font de belles promenades. Quatrièmement, l'auteur rappelle au lecteur que le mariage reflète le rapport de Dieu avec Israël et de Jésus avec son Église. Mais le mouvement pour la libération de la femme dit que la soumission est culturelle et donc pas essentiel. Si ce qu'elles disent est juste, le mariage ne démontre plus le lien entre Jésus et l'Église, et il faut déchirer Éphésiens chapitre 5 de notre Bible. Une femme chrétienne a dit ceci: par ma soumission à la volonté de Dieu, j'ai été libérée d'être esclave à la loi de la liberté, comme dit Paul en Romains 6, 17 à 18, et Jacques 1, le verset 25. Je suis, en étant une servante du Christ, libre d'être soumise à mon mari. Je suis libre de chercher les fruits de l'Esprit qui assurent la vie éternelle. cela semble exclure un mouvement militant ou agressif qui demande nos droits. Le seul droit que nous avons comme femmes chrétiennes est de vivre chaque moment de notre vie agréable à Dieu. Ainsi, la femme qui veut devenir grande doit être soumise à Jésus comme Seigneur et à son mari comme chef de la famille. Hébreux 5, 8 à 9 et 1 Corinthiens 11, les versets 1 à 6. Et dans cette soumission, la femme dépassera les concepts charnels du monde pour réclamer la grandeur que Dieu lui avait destinée. Il y a dans la Bible un portrait de la femme parfaite, de la femme qui vit selon l'esprit. Et ce portrait se trouve en Proverbes chapitre 31, les versets 10 à 31. En effet, tout le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur les femmes. Il est beaucoup dit au sujet de la femme trompeuse qui, pendant que son mari est parti, séduit un jeune homme. De l'autre côté, il y a partout dans les Proverbes des portraits qui commandent une admiration des femmes. Le portrait de la femme comme l'aide à son mari dans l'enseignement des enfants est un exemple de cette haute position des femmes dans les Proverbes. Par exemple, Proverbe 1, les versets 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En le Proverbe 5, le verset 19, l'auteur parle de l'amour que le mari devrait avoir pour sa femme toute sa vie. Il dit, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Il y a ici une intimité entre l'époux et l'épouse pendant une époque où les rois se sont donnés au plaisir de la polygamie. Salomon, par exemple, le fils de David, avait 700 épouses et 300 concubines. Malgré cette indulgence, le modèle parfait du livre est le rapport entre un homme et une femme. Nous voyons encore le mauvais côté de la femme dans les passages comme Proverbe 21, le verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Proverbe 21, le verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 11, le verset 22. Un anneau d'or au nez d'un porceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Et enfin, le Proverbe 12, le verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La femme est donc capable de faire du mal, mais elle est aussi capable de faire du bien, beaucoup de bien. Les femmes sont mises sur un piédestal dans les versets comme Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 19, le verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Le Proverbe 31 termine le livre d'une manière significative avec un portrait d'une femme admirable, une femme idéale. Ce dernier chapitre est une sorte de point culminant de tout ce que le livre a dit sur les femmes. Le livre termine avec cette instruction au roi Lemuel de sa mère concernant peut-être le choix le plus important de son règne, le choix de la femme qui sera son épouse pendant toute sa vie. Nous allons tirer de ces 22 versets 5 caractéristiques de la femme idéale. Et la première caractéristique, c'est la fidélité. Tout au commencement, dans le verset 10, nous trouvons ceci. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Et puis il donne la caractéristique de la fidélité. les versets 11 et 12, le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, au lieu de l'affection envers sa femme, c'est plutôt la confiance en elle dont le passage parle. N'importe quelle responsabilité il lui donne, elle l'accomplit. Elle est un bon administrateur. C'est une confiance complète qui fait jouir d'une grande considération son mari. Le verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Il ne sera jamais embarrassé. Il peut rencontrer n'importe quel homme sans crainte d'une infidélité de sa femme avec cet homme. Et contraster cette description avec Dalila, une femme belle, mais pas du tout vertueuse comme la femme décrite ici. Le verset 11 dit, et le bénéfice ne manquera pas. Comme dit la Bible de Jérusalem, il ne manque pas d'en tirer profit. Littéralement, la phrase peut être traduite, il ne manque pas d'en tirer un profit supplémentaire. À cause de ces dons d'administration, cette famille sera bénie. Parce que la femme veillera pour être sûre qu'il n'y aura pas de manquement. Tous les jours de sa vie impliquent qu'il ne s'agit pas d'une relation éphémère, mais d'une relation qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Elle sera fidèle en toutes choses. En deuxième lieu, la plupart du chapitre parle de l'industrie de cette femme. Elle est industrieuse, diligente. Elle fait beaucoup de choses chez elle et ailleurs. Elle est un chef et un exemple dans la communauté dans plusieurs sens. Le verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Et ces mots d'une main joyeuse signifient qu'elle le fait avec plaisir. Le verset 14. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Et c'est une femme de commerce. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses serviteurs, à ses servantes plutôt. Ici, on voit la supervision qu'elle a sur sa famille ou son foyer. Et puis le verset 16. Elle réfléchit à un champ. Et elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voilà les affaires hors de la maison. Et puis les versets 16 et 17, du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle a la force physique et spirituelle pour achever ses tâches. Le verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Il n'y a pas fin donc au travail d'une femme. Le verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Le verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. C'est une femme prospère, sa famille est bien habillée, ou habillée au moins contre le mauvais temps. Elle ne craint pas l'avenir. Verset 25. Il dit, elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Elle ne craint pas l'avenir parce qu'elle l'approche avec force, elle marche le front haut, et avec espérance. On voit donc d'autres de ses caractéristiques, la force, la dignité, l'optimisme. Et puis le verset 27. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Donc, l'industrie de la femme est soulignée comme une vertu pratique. Une troisième caractéristique de cette femme idéale est la charité. Le verset 20, elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Cela nous rappelle un peu Dorcas en Actes chapitre 9. Tout le monde était impressionné par ses bonnes œuvres et sa charité, et bien sûr quand elle est morte, beaucoup ont pleuré. Et puis, c'était l'apôtre Paul qui l'avait ressuscité des morts. Mais la femme parfaite, comme Dorcas, comme décrit ici en Proverbe 31, elle est généreuse envers autrui, pas seulement son mari et ses enfants. Et là, je peux aussi parler un peu de l'hospitalité. La famille chrétienne, plus que les familles non chrétiennes, devrait montrer l'hospitalité aux autres. Nos foyers devraient devenir un endroit pour montrer l'amour du Christ, pour partager ce que nous avons et ce que nous sommes. Et vous, les femmes, avez le privilège de vous occuper de ce foyer d'hospitalité et de charité. Après la charité, quatrièmement, le langage de la femme est souligné. Verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement bienveillant est sur sa langue. C'est un langage pur. La femme idéale comprend plus facilement et elle est plus compatissante aux autres. Elle n'est donc pas causeuse. Et ce verset semble aussi montrer qu'elle est intelligente dans ce qu'elle dit. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle a vraiment quelque chose à dire avant de parler. Le proverbe 16, le verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » Sa fidélité, son industrie, sa charité, son langage pur et finalement, et cinquièmement, son caractère général, sa réputation sont décrits à la fin du chapitre. Le verset 28 ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et ainsi, d'une description de ses attributs, nous passons à une évaluation d'elle du point de vue de son mari et de ses enfants. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles, dit-il, beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Dans ces versets, nous retrouvons le thème de tout le livre des Proverbes qui se trouve pour la première fois dans le Proverbe chapitre 1, le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce dernier chapitre donc est une louange aux femmes. La femme est très estimée, la femme très estimée est la femme qui craint le Seigneur. À notre époque, la publicité cherche de multiples manières à persuader les femmes que l'attachement de leur époux ou de leur futur époux dépend uniquement de leur aspect extérieur. Ils ont oublié l'importance de la beauté intérieure, que la femme emploie la bonne marque de pâte dentifrice ou de crème de beauté, qu'elle achète de savantes parures et tout ira bien comme par miracle. Pourtant, les auteurs des Proverbes disent que lorsque cette beauté extérieure est dépassée, la beauté intérieure devient plus belle. Quand Paul a écrit à Timothée, il avait confiance en lui. Pourquoi? De Timothée 1, le verset 5, il dit « Je garde aussi le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé. »